Il est 8h.
Nos interlocuteurs sont persuadés qu'il y a une reprise de l'économie au niveau mondial qui est en train de se profiler. Donc ils investissent massivement pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Les États-Unis redémarrent, leur économie rebondit très fort et elle achète des produits et des services français. Nos entreprises dans le sillage des Américaines, c'est le dossier d'Europe 1 dans un instant. Dans ce journal, le triomphe de l'ARN messager. La technologie du vaccin de Pfizer, ça y est, toute l'industrie pharmaceutique s'y met, même Sanofi. Et puis nous verrons qu'il ne fait pas bon être français au Pakistan, où de grandes manifestations visent directement le consulat à Karachi. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Vaccination, campagne européenne, horizon de sortie de crise. Rendez-vous à 8h15 avec le monsieur vaccin de Bruxelles.
C'est juste après ce journal, il est 8h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Parfois, les statistiques sont dépassées. Depuis 30 ans que la Chine publie son taux de croissance tous les trimestres, jamais on n'avait vu ceci. 18% de hausse de son PIB sur ce début d'année 2021 par rapport à l'année passée. Reprise solide et pas artificielle, nous disait Nicolas Barré dans son éclairage éco à 7h15. Le redémarrage qui est en route aussi aux États-Unis. On parle même d'un mini-boom grâce à une vaccination très rapide et à un plan de relance qui a distribué des chèques aux Américains.
Alors on est content pour les Américains, hein, mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que la France en profite. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour, bonjour à tous.
Les États-Unis sont l'un des principaux marchés d'exportation de nos entreprises.
Oui, le deuxième derrière l'Europe. Donc si leur économie repart, eh bien ce sont potentiellement de nouveaux contrats pour nos entreprises. Avec les bars et les restaurants qui commencent à rouvrir, les premiers à en profiter, ce sont nos producteurs de vin, de champagne ou encore de cognac. Un vigneron m'expliquait que ses équipes sont en pleine opération marketing en ce moment sur les terrasses de New York. C'est clairement de la croissance en perspective, surtout bien sûr maintenant que les taxes américaines sont suspendues.
Et le redémarrage américain profite à tous les secteurs.
Tous. C'est vraiment un état d'esprit qui est là. Mathieu Beuchet le sent depuis plusieurs semaines déjà. Il dirige Klaxoon, une entreprise qui propose des applications pour dynamiser les réunions en présentiel.
On sent effectivement une reprise sur le territoire américain avec depuis quelques semaines trois fois plus de demandes d'équipement sur des usages spécifiques qui sont ceux du lancement produit ou de tout ce qui va être de lancement de nouvelles offres. Ils sont dans un mode « on y va, il faut investir, c'est reparti, on y croit ».
Pareil pour Louis de Rangère, lui fournit des machines à l'industrie américaine et il ne s'attendait pas du tout à recevoir autant de commandes.
Nos interlocuteurs sont persuadés qu'il y a une reprise locale, mais il y a une reprise de l'économie au niveau mondial qui est en train de se profiler. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est être prêts à pouvoir fournir au niveau mondial et ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements. Donc, ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes, pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Oui, donc ça y est, Carole, là, on peut dire que le train de la relance est vraiment parti.
Complètement. Et il va même encore s'accélérer. Il y a un point notamment à scruter, c'est le plan de 2000 milliards de dollars pour rénover toutes les infrastructures du pays. Là aussi, nos entreprises françaises pourraient en profiter, selon Arnaud Leretour. Il est responsable de Business France aux États-Unis.
Évidemment, dans le domaine, par exemple, de la Smart City, de la mobilité, dans le domaine des bus électriques, de l'automobile électrique, je pense qu'en effet, les entreprises françaises pourront bénéficier clairement, oui.
Mais encore faut-il que ce plan extrêmement ambitieux soit voté. Il promet des débats houleux, en tout cas, dans les mois qui viennent.
Dossier signé, Carole Ferry, du service économie d'Europe 1.
Pour ce qui est de la réouverture du pays, le nôtre, Emmanuel Macron a dit hier à une quinzaine de maires qu'il comptait toujours rouvrir musées et terrasses à partir de la mi-mai, puis d'autres lieux, par étapes, toutes les trois semaines, si tout va bien. Calendrier qui reste imprécis, mais sur France 2, à la sortie des différentes réunions autour du président, Bruno Le Maire a assumé cette prudence de l'exécutif.
Il faut avancer progressivement. Rien ne serait pire que de dire à la mi-mai, on commence à tout rouvrir. Et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard, parce que le virus revient, on sera obligé de tout refermer. Donc nous agissons en anticipant, en prévoyant des rouvertures qui seront en fonction de la situation sanitaire à la mi-mai. Et je ne peux pas vous dire si ce sera territorialisé ou pas. Ça dépendra, une fois encore, de la situation sanitaire. Nous anticipons.
Nous anticipons, dit le ministre de l'économie. Voilà que le patron mondial du laboratoire Pfizer lui donnerait plutôt raison.
Interview ce matin au journal Les Échos, Albert Bourla le dit. L'Europe n'est pas en retard. En réalité, pour lui, l'Union européenne est même une machine bien huilée. Le directeur général du labo américain, dont le vaccin est aujourd'hui le plus injecté en France, évoque l'hypothèse d'une troisième dose. Pour lui, cette épidémie va devenir comme la grippe. Nous serons vaccinés et nous aurons une vie normale.
Son vaccin, rappelons-le, repose sur la technologie de l'ARN messager, une innovation qui fonctionne visiblement si bien que toute l'industrie pharmaceutique est en train de s'y mettre, Victor Delande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac, avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins à ARN messager, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination à ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante et surtout plus de labos pour développer des vaccins à ARN messager. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles pour le monde entier dans les années à venir.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
8h06 sur Europe 1, la loi contre les violences sexuelles sur mineurs définitivement adopté par le Parlement.
Aucun adulte agresseur ne pourra se prévaloir du consentement d'un mineur en dessous de 15 ans, souligne le ministre de la Justice, Éric de Brumoretti, ce seuil qui est fixé à 18 ans en cas d'inceste. Autre réforme adoptée hier après des mois de débats et de manifestations, la proposition de loi Sécurité globale, un texte remanié au Parlement, y compris son célèbre article 24, Guillaume Biais.
Oui, article qui a été complètement réécrit. Au final, il ne sanctionne plus le fait de diffuser des images de gendarmes ou de policiers à des fins malveillantes, mais uniquement la provocation à l'identification dans le but de porter atteinte aux forces de l'ordre ou à leur famille. Délit qui sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Autre changement par rapport à la version initiale, les images des caméras piétons, elles ne pourront finalement pas être diffusées dans les médias. C'était pour contrer les vidéos des réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas alimenter une guerre des images. Pour les drones, pas de reconnaissance faciale autorisée et l'utilisation de ces drones est limitée à certaines situations. L'essentiel du texte porte sur les polices municipales. Leurs missions sont renforcées, squat de hall d'immeubles, conduite sans permis. Les agents municipaux vont élargir leur champ de compétences, plus création d'une police municipale à Paris. Quant aux vigiles, les 170 000 agents de sécurité privée, ils seront plus étroitement contrôlés et sanctionnés en cas de dérapage.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes en région parisienne, forte odeur de fumée et circulation très perturbée ce matin au nord de Paris, et ce, du fait d'un incendie dans un entrepôt de 4000 m² situé dans le secteur de Saint-Denis-Aubervilliers. Grosse perturbation sur la 86 et trafic interrompu sur le RERB.
Vous restez avec nous dans un instant. Ce tir terrible d'un policier de Chicago sur un adolescent de 13 ans.
Et puis les raisons de la colère au Pakistan, où les ressortissants français sont potentiellement menacés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Belliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une vidéo effrayante, une course-poursuite à pied et cette détonation qui déchire la nuit à Chicago. La scène est filmée par le policier qui tire, sa cible s'effondre aussitôt. C'est un adolescent de 13 ans, il était en train de se retourner pour lever les mains en l'air quand le coup part. La maire de la ville de Chicago, Lori Lightfoot, a choisi hier de diffuser ces images qui datent de la fin mars.
Aucun parent ne devrait voir une vidéo des derniers moments de son enfant diffusée à grande échelle. C'est atroce. C'est extrêmement difficile. Nous avons échoué à protéger Adam. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer avec un autre jeune dans notre ville.
Pas de réaction pour l'instant de la Maison Blanche. Par ailleurs, cette nuit, dans une fusillade a fait plusieurs victimes à Indianapolis, toujours aux États-Unis, dans un local de l'aéroport international.
Au Brésil, le président Jair Bolsonaro lui avait souhaité de pourrir en prison, mais voilà que Lula, l'un de ses prédécesseurs, pourra être candidat à la présidentielle brésilienne en 2022. La Cour suprême du Brésil confirme que ses condamnations pour corruption sont annulées.
La nouvelle a surpris hier. La France demande à ses ressortissants et ses entreprises installées au Pakistan de quitter le pays.
Oui, l'ambassade fait état de menaces sérieuses sur les intérêts français. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est une rancœur ravivée qui inquiète. Pour comprendre, il faut remonter au mois d'octobre dernier, l'assassinat de Samuel Paty. Emmanuel Macron défend alors le droit à la caricature et donc les dessins de Mahomet, tollés dans le monde musulman, notamment au Pakistan, où pour calmer les esprits, le gouvernement propose d'expulser l'ambassadeur de France avant le mois d'avril. Nous y voilà, le représentant français est toujours là et le principal parti islamiste radical multiplie les manifestations anti-françaises pour réclamer son départ. Moins d'un millier de nos compatriotes vivent là-bas. La grande majorité a la double nationalité, ce qui rassure Hussein, un franco-pakistanais de Karachi.
Les binationaux, ils ne sont pas identifiés comme des ressortissants français par le public. Hein. Certaines marques françaises peuvent être affectées.
Sanofi, Carrefour ou encore Schneider Electric sont très implantés là-bas. L'Oréal a déjà fait l'objet d'un boycott, mais ce qui semble le plus menacé, ce sont les représentations diplomatiques françaises. Des conteneurs maritimes ont été ajoutés le long du mur d'enceinte de l'ambassade et des Rangers, une force paramilitaire pakistanaise, sont déployés à proximité.
Jean-Sébastien Soldaini, c'est l'une des voix, l'un de ces visages familiers que le Covid nous a pris. Il y a tout juste un an, le chanteur Christophe était emporté par la maladie, mais aujourd'hui, loin d'être cantonné à ses tubes des années 70, son œuvre est vivante grâce à la nouvelle scène musicale, des artistes qui s'inspirent ou réinterprètent sa musique. Angèle Châtelier.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi.
J'ai longtemps cherché.
Et pour Hervé, révélation masculine aux victoires de la musique cette année, Christophe était un précurseur, un technicien de la musique qui a toujours su capter l'air du temps.
Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. C'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps. Les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble. Il sera toujours noble.
Je vois tout.
Alors aujourd'hui, de nombreux artistes se réapproprient ses plus grands tubes, comme le groupe d'électropop parisien Thérapie Taxi avec Aline.
Et j'ai crié, et Aline, pour qu'elle revienne.
Ou encore Johan Papa Constantino, 29 ans, qui cumule des millions d'écoutes sur sa reprise des mots bleus, légèrement plus dansante que l'original.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Christophe était si curieux et à l'affût des nouveautés musicales qu'il y a encore 2 ans, il invitait les nouveaux artistes à succès dans un album de duo, comme Jeanne Haddad ou Juliette Armanet.
Et ben voilà, on est reparti pour écouter du Christophe en version originale ou version nouvelle scène toute la journée.
Et ça fait du bien, on va avoir ça dans la tête, mais c'est version revisitée de Christophe. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous dans quelques secondes. Sonia Mabrouk et son invité Thierry Breton, le monsieur vaccin européen, le commissaire européen en charge du marché intérieur. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.
Bienvenue à vous et bonjour Thierry Breton.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Pfizer-BioNTech a annoncé la livraison de 50 millions de doses supplémentaires de leur vaccin à l'Union européenne au deuxième trimestre, dont 7 millions à la France. Est-ce que vous avez, monsieur le commissaire européen, des garanties sérieuses sur le respect de ces livraisons?
Oui, ça ne s'est pas fait tout seul, Sonia Mabrouk. Puisqu'on travaille sur ce sujet depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est parce que précisément, et je tiens à le dire ce matin à vos auditeurs, nous avons réussi à augmenter de façon exceptionnelle la capacité de production de vaccins en Europe, pour en faire désormais, à l'heure où je vous parle, la première capacité mondiale de fabrication de vaccins. Et ça en quelques mois. C'est grâce à cela que, voyant cette augmentation, nous avons pu renégocier avec Pfizer-BioNTech, et que nous avons obtenu 50 millions de doses de plus dès le second trimestre, ce qui va faire passer les doses de vaccins Pfizer de 200 millions à 250 millions. J'en ai la certitude, parce que ces vaccins sont déjà fabriqués. Il faut 70 à 90 jours pour faire des vaccins, donc ils sont déjà fabriqués, prêts à être mis maintenant dans les petits flacons, et donc ils seront livrés au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin.
Vous allez évoquer cela, cette commande avec le Premier ministre Jean Castex que vous rencontrez tout à l'heure. Et la suite, est-ce que vous disposez déjà de projections sur la période mi-juillet?
Bien sûr, avec cette augmentation très significative qui va donc arriver dès le mois d'avril, mai et juin, nous allons passer pour mi-juillet. C'est un moment important parce que c'est le moment où les Français et nos concitoyens européens pensent aux vacances. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que mon objectif, et il sera tenu, Sonia Mabrouk, mon objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions livrer à l'ensemble des États membres, dont la France évidemment, de quoi vacciner au moins 70% de la population adulte. Attention, double dose, c'est-à-dire totalement vaccinés. En fait, avec cette augmentation supplémentaire, on sera à une capacité qui va dépasser les 90%. Alors, on se donne une marge de risque,
ça,
si
c'est
vous
l'objectif.
Voulez. C'est pour ça que je peux vous le dire ce matin, nous serons, oui, en capacité de fournir aux États membres la possibilité de vacciner double dose 70% de la population adulte. Alors, à charge pour eux maintenant de se mettre en mouvement,
Monsieur Breton,
et c'est compliqué.
Bien sûr, c'est des promesses. C'est comme la promesse de l'immunité collective au 14 juillet. Ça ne mange pas de pain. Nous avons ce matin encore le PDG de Pfizer qui nous dit on va peut-être reprendre une vie normale à l'automne.
Non, je comprends très bien votre question. Je dis que derrière les vaccins, il y a des doses. Et donc moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, bien sûr, il y a 53 usines qui travaillent nuit et jour, avec derrière des femmes et des hommes qui travaillent 7 jours sur 7. Donc il peut y avoir toujours un petit incident industriel, mais on a maintenant une telle visibilité et tellement, encore une fois, d'usines qui fonctionnent, que je vous le redis, il y aura les doses suffisantes pour vacciner 70% de la population. Après ça, c'est aux épidémiologistes de dire à partir de quel moment on atteint l'immunité collective, en additionnant évidemment, hélas, toutes celles et tous ceux qui ont déjà eu le virus, vous l'avez fixé
au 14 juillet.
Et qui sont donc, bien sûr, parce que je vois les chiffres.
On avait envie de vous demander de quelle année, Monsieur Breton.
Vous avez raison, c'est une excellente question.
Vous savez, chat échaudé avec toutes ces promesses.
C'est de cette année, et encore une fois, je le dis parce que les vaccins, ils sont maintenant fabriqués sur nos usines européennes. Et donc, il faut maintenant que la vaccination accélère. Elle le fait de façon très significative en France, en Allemagne.
Certes,
donc j'ai confiance.
Il y a une montée en puissance. Mais le Royaume-Uni vaccine massivement. Vaccination de plus de 60% de sa population contre près de 12% pour l'UE. Est-ce que vous reconnaissez ce matin que le Royaume-Uni, post-Brexit de Boris Johnson, a une stratégie pertinente et solide?
Vous voyez, il faut toujours faire attention quand on fait de la politique et de la santé en même temps. Et je le dis avec beaucoup de recul, de hauteur de vue et uniquement de là où je suis. On a vu effectivement partir un peu rapidement après une première phase dramatique au Royaume-Uni. On le sait, du reste, beaucoup de gouvernements, on va les qualifier un peu populistes, on y est. La pandémie au début, on a vu ce qu'il en a coûté hélas à leur population, puis aussi aux variants qui se sont développés dans ces territoires, je pense en particulier au Brésil, mais aussi en Grande-Bretagne. Et puis derrière, évidemment, il y a eu cette première phase où, au Royaume-Uni, pour limiter l'accélération de cette pandémie, la stratégie a été de vacciner en une dose. Mais voyez-vous, on se rend compte aujourd'hui que le Royaume-Uni dépend à plus de 70% du travail des femmes et des hommes européens pour livrer la seconde dose. Et donc aujourd'hui, le Royaume-Uni est en retard.
Pourquoi cette attitude vis-à-vis du Royaume-Uni? On dirait qu'on a envie de leur faire payer éternellement le Brexit. S'ils réussissent, tant mieux pour eux.
Voilà, merci de poser cette question, parce qu'il ne s'agit pas d'une attitude, il s'agit tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je veux tout simplement que les Européens soient conscients, je suis là pour donner des informations, que nous avons aujourd'hui la capacité, nous sommes le seul continent à fournir les vaccins pour nous, et vous voyez dans des proportions maintenant tout à fait considérables.
Et vous le dites avec beaucoup d'humilité ce matin. On a l'impression qu'on a tout fait très bien,
non,
Monsieur Breton.
Pour les Européens.
On a l'impression qu'on a tout réussi et que les autres ont tout raté.
Et 40%, nous fournissons 40% pour les autres. Les Américains, aujourd'hui, eux, ils ont une stratégie différente. Ils gardent l'intégralité des doses pour eux. C'est nous qui avons fourni l'intégralité des doses pour Israël. C'est nous qui fournissons 70% des doses pour la Grande-Bretagne. Et je dirais que c'est aussi notre intérêt, parce que derrière, si on ne le fait pas, eh bien, les variants vont se développer et vont revenir
Thierry
sur
Breton,
nous.
Vous ne reconnaissez aucune lenteur, aucun raté de la campagne vaccinale européenne?
Comme vous tous, j'ai bien entendu en tête le démarrage lent entre le moment où on commande les vaccins et le moment où on les fabrique. Parce que voyez-vous, des vaccins, c'est pas, on est dans une société consumériste, on a l'impression qu'il suffit d'avoir un bon contrat et que les vaccins arrivent
le
lendemain.
C'est pas ce qu'on dit? Il fallait mettre le prix?
Non,
il fallait faire un quoi qu'il en coûte vaccinal?
Non, parce que l'Europe a signé son contrat avant la Grande-Bretagne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de fabrication. Il fallait les fabriquer, l'Europe s'y est mis, l'Europe est le premier
vous
continent vaccinal du monde.
Vous n'avez pas mégoté sur les prix? Est-ce que la Commission européenne n'a pas mégoté sur les prix au début?
On n'a pas mégoté sur les prix, on a juste fait en sorte que nous puissions désormais fabriquer ces vaccins. Alors voyez-vous, vous me dites, est-ce qu'on aurait pu faire des choses de mieux ? Bien sûr, on apprend beaucoup de cette crise. Et en particulier, désormais, on a créé une task force dont j'ai la charge, une task force industrielle. Eh bien, je peux vous dire que grâce à ça, on est en permanence en contact avec ces usines. On suit évidemment l'approvisionnement, parce que vous savez, on va avoir une capacité de fabrication de plus de 3 milliards de doses par an à la fin de cette année. Ben, il faut que les usines soient approvisionnées. Il y a 400 à 500 composants. Si un vient à manquer, c'est toute la chaîne qui s'arrête.
On a bien
donc
compris.
Cette task force, on l'a mis en place, pour nous encore une fois, et pour les autres. Et puis pour les nouveaux contrats qu'on va signer, ben évidemment, la task force qui ira d'abord s'assurer
les drapeaux
que
ou les nationalités des vaccins. Permettez-moi Thierry Breton, monsieur le commissaire européen, pourquoi vous opposez un tel mépris par rapport au vaccin Sputnik parce qu'il est russe ?
Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de mépris. Je dis simplement une seule chose sur tous les autres vaccins. Nous avons aujourd'hui 5 vaccins, 4 vaccins et bientôt 5 vaccins qui fonctionnent sur le continent européen. Nous sommes le premier continent en termes de vaccins. Sputnik,
le premier continent ?
Oui, bien sûr. Les Américains n'en ont que deux qui fonctionnent.
Oui, mais le Mexique, j'ai vu, en a 6. L'Argentine, le Pakistan, la Chine et la Thaïlande, 5.
Non, attention, parce que vous parlez évidemment des vaccins chinois qui n'ont pas été approuvés.
Et alors, une vaccine quand même ?
Oui, je crois qu'au Chili, on se rend compte aujourd'hui que l'efficacité, mais encore une fois, je ne porte aucun jugement, fait qu'il faut reconfiner.
Continent européen a le plus...
Oui, le continent européen,
en a 6, M. Thierry Breton, l'Argentine, le Pakistan, la Chine, la Thaïlande, 5.
Nous en avons 6 aussi, le continent, et on est en train d'en négocier de nouveau. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'on signe effectivement et où le vaccin suit les procédures auprès des autorités de santé, c'était le cas du vaccin Sputnik, donc on va attendre bien sûr, comme les autres, que l'on ait suffisamment donné. J'ai aucun doute, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques russes, j'ai aucun doute que ce vaccin fonctionne, je l'espère en tout cas, mais derrière, il va falloir le fabriquer. Oh, j'ai entendu que Renaud Muselier disait qu'il avait précommandé 500 000 doses Sputnik.
C'est du pragmatisme ?
D'abord, c'est bizarre parce que j'ai entendu qu'il le faisait auprès de l'ambassadeur de Russie. Donc, un ambassadeur, c'est plutôt fait pour faire de la diplomatie, donc c'est peut-être de la diplomatie vaccinale. Moi, ce que je veux dire à Renaud Muselier, parce que ce sont des choses qui sont évidemment des éléments qui sont sérieux, rien qu'avec l'augmentation de livraison des 50 millions qu'il ne connaissait pas, de vaccin Pfizer au deuxième trimestre, la France va en obtenir 7 millions de plus, et rien que pour la région PACA, ce sera 534 000 doses de plus. Donc il a déjà ses doses, et celles-là, elles arrivent.
Mais pourquoi vous dites qu'il faut qu'on en soit sérieux ?
Vaut mieux que deux, tu l'auras.
Thierry Breton, ce n'est pas sérieux quand on dit à ses administrés qu'on va leur livrer du vaccin Sputnik ?
Bien, je pense qu'il faut être très précis, comme j'essaie de l'être avec vous ce matin, quand on donne des chiffres, il faut savoir d'où ils viennent. Un vaccin pour être fabriqué à ADN messager, comme c'est, à adénovirus, comme c'est le cas du vaccin Sputnik, c'est le cas aussi du vaccin AstraZeneca. Ces vaccins, pour les fabriquer, il faut entre 85 et 100 jours. Donc aujourd'hui, si jamais Monsieur Muselier signe ce contrat, il faut savoir que il faut plusieurs mois pour que l'usine soit mise en place, et puis ensuite, il faudra 100 jours
c'est-à-dire que le
pour
président
le
de la région.
Donc on n'aura rien.
Ne dit pas la vérité aujourd'hui sur.
Peut-être est-il mal informé ou a-t-il été mal informé. En tout état de cause, la bonne nouvelle, c'est que je lui annonce qu'il n'en aura pas besoin puisque il va recevoir 534 000 doses supplémentaires qu'il n'avait pas prévues et qui ne seront donc pas à la charge de ses concitoyens.
Thierry Breton, l'économie américaine repart sur les chapeaux de roue. C'est un mini boom. En Chine, premier pays touché par l'épidémie, la croissance au premier trimestre est de 18%. Et l'Europe ? On est dans le lointain sillage ?
Oui, alors bien sûr, on a comparé la croissance qui est tout à fait impressionnante, effectivement, en Chine, par rapport à un trou d'air considérable l'année dernière au premier trimestre, puisque c'était, je rappelle, le premier pays à avoir été très très fortement touché par la pandémie.
Donc,
mais ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'effectivement, nous allons avoir maintenant, évidemment, une croissance supérieure. Ceci étant dit, je tiens vraiment à en porter témoignage ce matin encore devant vous. On va avoir ces vaccins. On va effectivement, il faut que tout le monde accepte de se faire vacciner, mais il faudra
faire une réouverture.
Il faudra avoir une réouverture qui soit progressive et que
vous y croyez mimé pour la France ?
Oui, moi je crois vraiment que le calendrier qui a été présenté par le gouvernement français est tout à fait crédible et je crois qu'il va dans le bon sens.
Eh bien, il faut espérer que ces promesses soient réalisables. Merci Thierry Breton. Et donc, cette annonce pour le calendrier et ces doses supplémentaires de Pfizer ce matin. Merci à vous.
Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Et notez-le, Renaud Muselier sera l'invité du grand rendez-vous ce week-end dimanche matin au micro de Mickaël Darmon. 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le président de la région PACA, évidemment. Vous restez sur Europe 1 dans un instant, un nouveau journal avec Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31, un nouveau journal avec Marion Calais.
Entre confinement et libération de la parole, des signalements de violences sexuelles qui se multiplient ces derniers mois. Selon vos informations, Gladys Laffitte, ils ont été deux fois plus nombreux depuis le début de l'année sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr.
Exactement, et 850 de ces messages reçus concernent des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et la libération de la parole concerne surtout les faits d'inceste. Et ça, c'est nouveau, explique la commandante Sandrine Masson, chef de la plateforme pour la police.
L'année dernière, sur la même période, on avait 25 chats qui concernaient des viols et des agressions sexuelles incestueux. Cette année, sur la même période, 169 faits. Suite au hashtag MeTooInceste, les gens avaient véritablement besoin d'en parler et qu'ils ne se sentaient pas le courage auparavant d'en parler.
Cette démarche est aussi favorisée par l'anonymat qui est proposé lors des échanges. Il est choisi dans 69% des cas, des échanges qui durent en moyenne 54 minutes. Et à l'issue, les forces de l'ordre proposent leur aide aux victimes, par exemple, si elles souhaitent déposer plainte. La hausse des signalements concerne aussi les faits de violence conjugale. Il est courant qu'un voisin contacte la police via ce portail internet parce qu'il est témoin direct de violences intrafamiliales. Et ça, c'est de plus en plus fréquent avec les confinements successifs.
Information Europe 1 signée Gladys Laffitte. Rebondissement dans l'affaire de la mosquée de Strasbourg. La maire de la ville annonce ce matin que l'association islamique Miligorus retire sa demande de subvention, faute de plan de financement consolidé. C'est ce qu'explique Jeanne Barseguian dans une tribune publiée ce matin dans les dernières nouvelles d'Alsace. L'optimisme prudent de l'exécutif, l'objectif de rouvrir les terrasses et les musées à la mi-mai, avant ensuite des réouvertures par étapes toutes les trois semaines. Un facteur clé dans ce calendrier, ce sera la vaccination, ouverte dès ce vendredi aux plus de 60 ans, sans comorbidité avec Pfizer et Moderna. Ce week-end, les enseignants, forces de l'ordre, professionnels de la petite enfance de plus de 55 ans pourront bénéficier de créneaux réservés. La situation sanitaire qui contraint la couronne britannique à un hommage limité après la mort du prince Philippe. Funérailles demain après-midi à Windsor. 30 personnes présentes, dont Harry. Mais les Britanniques, eux, sont appelés à suivre la cérémonie à la télé. Reportage à Londres d'Anaïs Cordoba pour Europe 1.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie. Ça me rend très triste.
Christy, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Une nouvelle fusillade aux États-Unis dans un centre du groupe FedEx près de l'aéroport d'Indianapolis. Le tireur se serait donné la mort après avoir blessé plusieurs personnes. À 6 journées de la fin de la Ligue 1, un leader pourtant en difficulté. Lille, qui joue ce soir contre Montpellier, s'affiche en tête du championnat. Pour autant, l'avenir du club reste incertain à cause d'une dette très importante pour Europe 1. Marguerite Lefebvre.
Sur le terrain, ils sont impressionnants de régularité. Les joueurs de Lille ont disputé 32 matchs, n'en ont perdu que 3, et ils ont passé près de la moitié de l'année en tête du championnat. Mais au-delà de ces statistiques flatteuses, le LOSC, c'est aussi ce leader au pied d'argile. Au bord de la faillite, il y a 4 mois, le club a dû être racheté in extremis à Noël. Le Covid et Mediapro n'expliquent pas tout. Mickaël Terrien est économiste du sport à l'Université de Lille.
On est face, dans le cas du LOSC, à soit de l'incompétence managériale crasse, soit une pratique à la frontière de la légalité ou de la moralité. C'est quelqu'un qui a acheté le club avec l'argent de quelqu'un d'autre et qui l'a certainement utilisé pour s'enrichir lui-même.
Résultat, en milieu de saison, le président a changé, l'actionnaire également, mais la dette, elle, est toujours abyssale. Il va sans doute falloir vendre des joueurs avant l'été. Et comme si cela ne suffisait pas, on annonce aussi le départ de l'entraîneur Christophe Galtier pour Lyon la saison prochaine. Autant d'éléments perturbateurs dont les joueurs vont devoir faire abstraction à 6 journées de la fin du championnat. Et alors que le titre leur tend plus que jamais les bras.
Marguerite Lefebvre, Lille-Montpellier en ouverture de la 33e journée de la Ligue 1. Ce sera ce soir à partir de 21h.
Merci Marion Calais. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Allez, je vais être un petit peu plus précis parce que j'ai été de manière un peu lapidaire tout à l'heure pour vos températures notamment. De vous dire qu'en ce moment il fait toujours entre moins 5 et plus 5 degrés, mais enfin ce sont les températures qui vont grimper assez vite. Dans l'après-midi, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Belfort, 11 à Caen et Lille, 12 à Paris, à Lyon, Poitiers, Limoges, Tours, Hennebon dans le Morbihan, Rennes et Nantes entre 13 et 14, 15 à Toulouse, 16 à Marseille. Le temps est dégagé sur la France en ce moment, mais ça ne va pas durer. Comme hier, il va s'ennuager, notamment d'abord sur la Lorraine et l'Alsace, et en plus dans le courant de la journée, d'ailleurs il est déjà un peu sur la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, qui seront des régions marquées par les intempéries, notamment sur la Côte d'Azur, où nous aurons des orages probablement dans le Var. Que dire encore, bien sur les côtes atlantiques, là les éclaircies seront légion. Demain et après-demain, ce sera encore un petit peu froid, mais de moins en moins au fil des jours, encore des nuages demain et après-demain, et puis la semaine prochaine, ce sera doux et beau.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Tout va bien, c'est parfait. Non, vous avez l'air épuisé. C'était un sprint cette météo-là. Ah, je vous ai senti concentré comme jamais. Merci Laurent Cabrol. 8h37. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. Notre santé.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner en nous écoutant. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vers 11h, certains vont avoir une fringale à cause de celui-ci.
Le docteur Jimmy Mohamed dans moins d'une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Alors ce matin, vous allez nous aider à comprendre tout simplement d'où peuvent venir ces envies de manger entre les repas qu'on appelle aussi des fringales.
Eh oui, c'est un phénomène qui est assez déroutant. Pourquoi certaines personnes vont, quelques heures après un bon repas, avoir faim et soient prises de fringales et donc grignoter? Eh bien, pour ça, on a suivi pendant 2 semaines 1000 personnes chez qui on a surveillé la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre. Et on s'est rendu compte que certains présentaient dans un premier temps un pic de glycémie important qui correspond au fait d'avoir mangé, puis quelques heures après, une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse du taux de sucre. Et que se passe-t-il lorsque vous êtes en hypoglycémie? Eh bien, vous avez faim. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ces personnes avaient une hypoglycémie peu de temps après avoir mangé. Eh bien là, il faut regarder du côté de leur repas et plus particulièrement de leur petit déjeuner. Eh bien, ces personnes qui vont avoir faim vers 10, 11h, 11h30, eh bien, sont celles qui vont avoir finalement mangé trop de sucre, car manger trop sucré vous expose à l'hypoglycémie.
Alors, manger trop sucré provoque une hypoglycémie, c'est un peu contre-intuitif, non ? Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais on doit certainement ça à nos ancêtres. Le chasseur-cueilleur que nous étions, finalement, mangeait très peu sucré. Il ne mangeait ni muffins, ni croissants, ni pain au chocolat. Ouais,
j'aimerais
et notre
bien
organisme...
vous voir, chasseur-cueilleur, vous, Jimmy Mohamed.
Oh, vous avez déjà le book, Mathieu, vous, tout va bien. Et notre organisme, finalement, a gardé ce mode de fonctionnement. Et on a très peu évolué, on n'a pas su s'adapter à l'industrialisation. Et donc, finalement, lorsque vous prenez un petit déjeuner trop sucré, votre organisme va avoir une quantité très importante de sucre qu'il va vouloir stocker sous forme de graisse. Non seulement car vous n'avez pas besoin d'autant de sucre, mais aussi pour le réutiliser en cas de famine. C'est un mécanisme de défense. Et pour ça, il va utiliser de l'insuline. Et que va faire l'insuline ? Une hypoglycémie, et donc vous allez avoir faim. C'est pour ça que le matin, mieux vaut privilégier un petit déjeuner à l'anglaise avec des œufs, du fromage, de l'avocat, plutôt que des tartines avec de la confiture, ou même des céréales dont raffolent les enfants, car finalement, il faut manger des aliments avec un index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui vont entraîner une faible hausse de la glycémie, en tout cas pas très rapidement. Donc manger des œufs et du fromage le matin, vous verrez, vous n'aurez pas faim à 11h.
Mais vous êtes passé par 11h du matin, par midi, par le sucre et les hommes préhistoriques chasseurs-cueilleurs pour nous dire que c'est le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner.
Exactement, tout un cheminement, mais oui.
Jimmy,
c'est un métier.
Manger quoi, bien. Et puis le petit déjeuner à l'anglaise. Non, mais je vous rejoins complètement là-dessus, évidemment. Jimmy Mohamed, on vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Exactement, et on va parler du dos, on va prendre soin de votre dos et on va recevoir pour ça le professeur Ranou, chef de service de rhumatologie. Vous allez voir, avec le télétravail, c'est parfois difficile.
Merci, à tout à l'heure, 15h sur Europe 1, c'est l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez, 8h41.
Notre planète, Fanny Agostini revient lundi. Nous sommes avec Virginie Salmen, spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un outil inédit vient de sortir. Vous nous le faites découvrir ce matin. C'est un nouveau Google Earth qui permet d'observer de ses propres yeux les transformations de notre planète depuis 40 ans.
Oui, vous avez probablement déjà essayé de vous balader sur Google Earth. Vous savez, ce logiciel qui vous montre votre maison ou votre jardin ou n'importe quel endroit de la planète vu du ciel grâce aux images satellites de la NASA et de l'Agence spatiale européenne notamment. C'est déjà assez fascinant de parcourir la planète depuis son fauteuil de bureau.
Oui,
mais
ou
là,
juste son quartier parfois. Même.
Voilà, c'est dingue. Mais là, Google franchit un grand pas technologique avec l'aide des scientifiques américains et européens. On peut désormais regarder comment tel glacier, telle ville ou telle plage a changé depuis 40 ans. Au lieu de regarder une image fixe, c'est un diaporama accéléré du même lieu qui défile, ce qu'on appelle un time-lapse. C'est le nom de cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, on voit très nettement les transformations.
Et Virginie, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire?
Alors, il y a la côte de Dubaï. Elle était quasiment vierge il y a 40 ans, désertique. Et aujourd'hui, on voit des constructions partout et ces fameuses îles artificielles en forme de palmiers visibles depuis l'espace. Ou bien dans la catégorie étalement urbain, l'expansion hallucinante de la ville de Las Vegas aux États-Unis, dans le Nevada. Et cette relativement petite ville dans les années 80 qui a littéralement débordé sur le désert alentour. Dans la section réchauffement climatique, le glacier Columbia en Alaska, fondu à plus de la moitié, l'évolution est saisissante. Il y a aussi la catégorie beauté fragile. Ce sont des phénomènes naturels magnifiques, comme les plages de Cape Cod aux États-Unis sur la côte Est, dont le sable se déplace naturellement vers le sud. On a l'impression de voir les plages bouger sous nos yeux au fil des années en accéléré. Et puis au Brésil, certains peuples, donc ça c'est assez positif, certains peuples qui se sont battus pour défendre leur bout de forêt amazonienne, et ça a marché, comme à Rondônia où il y a encore beaucoup de verre, beaucoup d'arbres comparé à d'autres parties du Brésil saccagées.
Comment Google a pu obtenir des images identiques, superposables de tous ces endroits?
Alors, c'est un gros travail, évidemment. Ils ont nettoyé les images satellites, notamment en gommant les nuages, pour obtenir une netteté optimale. 20 millions d'images satellites de 1984 à 2018. Et à partir de maintenant, il y aura une mise à jour chaque année pour qu'on puisse suivre l'évolution de la forêt amazonienne ou de la forêt près de chez vous. Vous pouvez tout consulter. L'objectif, selon les dirigeants de Google Earth, c'est bien de sensibiliser sur toutes ces transformations très visibles et puis que des chercheurs, des étudiants, des entreprises, des dirigeants s'en emparent.
Merci Virginie Salmen, Notre Planète sur Europe 1. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup, la revue de presse que Julie est déjà là en studio avec nous. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bonjour ma chère Julie. Oh, bonjour, devrais-je dire. Bonjour à tous. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé hier la réouverture des terrasses. Une réouverture qui... Mais qu'est-ce que... Mais non, attendez, excusez-moi parce que se passe des choses dans le studio. Laurent est en train de... Revenez. Laurent, c'est Laurent Cabrol qui est parti en courant du studio. Laurent, non, c'est le 15 mai, Laurent, la réouverture des terrasses.
Il est parti.
Ah, bon, ah oui, non, mais écoutez, si... Oh, bon, mais si vous me faites des fausses joies aussi, comment je fais, moi?
Pardon, je suis désolé, Laurent, je pensais pas que vous interpréteriez comme ça les choses. Allez, bon, bref, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des terrasses, disions-nous, et des musées aussi. Mais bon, les musées, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Oui, du coup, Laurent est même resté. Alors, si. Non, mais si, franchement, autant on était impatients tous de retourner boire des mojitos avec les potes, autant on regardait des collections de pipes en bois du 13e siècle. Bon, ben, voilà. Allez, l'impatience est pas la même.
Il n'y a pas que ça dans les musées, quand
c'est
même.
C'est où, Louvre, les pipes en bois?
Troisième couloir en fond à gauche. Allez, Emmanuel Macron à côté des toilettes. Emmanuel Macron ne veut pas lâcher sur la date. Il y tient, aux terrasses. Il est à deux doigts de payer sa tournée, on le sent. En tout cas, ces réouvertures sont conditionnées au succès de la vaccination. On en parlait avec Thierry Breton. Et il faudra atteindre au moins 40% de vaccinés d'ici la mi-mai. Ouais, bon, ben au train où ça va, je pense qu'on va plutôt viser allez, mi-juin, voire mi-septembre. Allez. Mais c'est beau de le tenter. Allez, il faut y croire. Allez, on y croit. Allez, à vous, Julie.
Merci. Salut, Mathieu. Bon week-end. Emmanuel Macron visitait hier le chantier de Notre-Dame de Paris et nos équipes étaient sur place.
Wow! Dites donc, cette charpente, c'est impressionnant, hein? Il est où le contremaître, là, s'il vous plaît? C'est vous? Mais mon vieux, j'ai... Non, franchement, j'ai jamais vu ça.
Bah écoutez, merci Monsieur le Président, ça fait plaisir, c'est vrai que c'est
C'est un gros travail.
Non, non, je veux dire, c'est impressionnant de nullité.
Oh, le
non, mais, non, mais ouvrez les yeux. Non, mais levez les yeux. Non, mais ça se monte pas comme ça, une charpente, je le sais. Ça fait 2 ans que je lis des études sur la menuiserie médiévale. Je suis une sorte... Oui, bah excusez-moi, mais je suis une sorte d'épidémiologiste du chêne massif. Ah oui. Voilà. Et je vous le dis, vous avez les tenons et les mortaises de votre entretoise, ça va pas du tout. Et ça, c'est quoi, là, monsieur là, c'est vous le... C'est quoi cette... C'est la nouvelle plomberie, ça, c'est quoi?
Là, c'est... Oui, oui, oui.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ces soudures? Vous savez, non, mais franchement, mais, après, non, mais vous avez vu comment vous tenez votre fer? Apprenez à vous servir d'un fer. Les revêtements, là... Là, oui, mais mettez du BA13 au lieu de maroufler vos bertillons avec une chigourdine.
Vous risquez...
Mais oui, mais si vous maroufflez vos bertillons avec une chigourdine, vous risquez de déplafiner les comptes arc-bus.
Oh là là, il a tout le vocabulaire. Que répond l'ouvrier?
Mais je... Pardon, monsieur président, mais ça veut dire quoi, ce que vous dites? Je comprends pas.
Ça veut dire quoi, ce que vous dites? Je comprends pas. Non, mais en plus, vous connaissez même pas le vocabulaire de votre métier. Non, non, mais c'est fou, ça. Ça m'étonne pas qu'il soit pas encore fini, ce chantier. Hein. Bon, je vous filerai bien un coup de main. Mais oui, mais non. Moi, j'ai une épidémie sur les bras, d'accord? Donc, je peux pas être partout. Oh, quel pays, mon Dieu. Si je suis pas là, il y a rien qui avance.
Bravo et merci monsieur Macron. Philippe de Villiers est en couverture de Valeurs Actuelles avec ce titre « J'appelle à l'insurrection ». Bonjour Philippe de Villiers, c'est une... c'est une charge ultra-violente contre Emmanuel Macron.
Taïo, avec moi mes amis, sus à l'usurpateur Emmanuel, marchons ensemble vers l'Elysée pour en chasser le sinistre Macron. Vendu, oui, à Big Pharma, Big Media, Big Data, au Big Bazar et à Big Bisou. Alléluia.
Alors, sur la couverture, on peut lire les thèmes que vous abordez, notamment le Grand Reset. Le Grand Reset, on le rappelle, c'est une théorie conspirationniste qui dit que les élites mondiales ont planifié la pandémie pour imprimer ensuite un régime mondial totalitaire. Rien que ça.
Mais je sens ton petit ton ironique, femelle. Et pourtant, c'est une réalité. J'en parlais d'ailleurs hier avec Francis Lalanne, après un visionnage du documentaire Hold Up chez Jean-Marie Bigard. Et nous étions tous d'accord. Il y a, excusez-moi, mais une dictature sanitaire mondiale. On nous empêche de contaminer nos voisins, ce qui est un droit fondamental. Et les masques, hein ? Avec les masques, on nous empêche de parler. Je l'ai dit cette semaine, si vous écoutez ce que je raconte chez Valeurs Actuelles, je l'ai dit, à LCI, Europe 1, CNews, RMC, France Info, on ne peut plus rien dire. Je l'ai dit là, tous ces médias.
Non mais c'est quand même fort d'appeler à l'insurrection contre le président quand même.
Mais ce n'est que justice, femelle. Bon sang de bois. Emmanuel Macron, sachez-le, Emmanuel Macron m'a trahi. Ah. Il avait rouvert le Puy du Fou. Et là, elle a refermé. Hein, ben fermant oui. Du coup la porte de mon cœur. Oh. Alors je chasserai de ce pas du château. Moi et tous ceux qui se retrouvent dans mes idées, partisans anti-grand reset, hein, les gilets jaunes de Facebook, Francis Lalanne, mon futur palefrenier aux cuissardes rutilantes et aux cheveux filasses, et tous ces fans. Oui, tous les 6, rejoignez-nous, les lecteurs de Valeurs Actuelles, les followers de Jean Messia ou même de Florian Philippot, bref, l'élite intellectuelle de la nation est derrière moi, sachez-le.
Oulala, mais calmez-vous, Philippe de Villiers, à bientôt.
Fermez-le.
Bernard Madoff est décédé, le grand escroc de l'histoire de Wall Street est mort en prison. On va en parler avec Nicolas Barré.
Repose en paix, Bernard Madoff. Aujourd'hui, tous les économistes du monde te pleurent au parrain. Hein. Toi, le Pablo Escobar des 6 caves obligataires. Toi, le Don Corleone du tracker à effet de levier. Toi, le Tony Montana des pages saumon du Figaro.
Mais Nicolas, vous craquez ou quoi, là?
Non, mais Julie, mets-toi à ma place. Tu le sais, nous, les économistes, on a un succès très relatif auprès des femmes. En tout cas, auprès des femmes de moins de 70 ans et sans moustache.
Oh là là,
parce qu'elles préfèrent, les femmes préfèrent, je m'en rends compte, elles préfèrent les bad boys, les rebelles qui ont les cheveux longs, un blouson en cuir, une moto, même un garage, suivez mon regard.
Ah non, c'est Cabrol qui a une moto.
Ah oui, d'accord. Il y a même un avion, lui.
Mathieu.
Ouais, il doit emballer avec son avion. À tous les les coups, ça va être un biplace. Même qu'au lycée, ils nous blousons noirs, là, ils nous attachaient à part la cravate au porte-bagages et tout le monde rigolait. Il fallait suivre. Et puis un jour, il y a eu Bernard Madoff et tout a changé.
Ah bon ?
Ah ben ouais, le plus grand escroc de la Terre, c'était un économiste, tu te rends compte ? Du coup, on nous a regardé comme si on était des rappeurs du Bronx. Dans les yeux des directrices du hedge fund, dans le cœur des comptables allemands, on était devenus sulfureux, tu vois, ténébreux. J'avais l'impression d'être un biker. Tu m'imagines, moi, biker ? Je me suis même acheté une trottinette électrique. Sur la route 66, tu me vois même ma trottinette électrique.
Born to be wild.
Ben oui, c'est ça la musique. Quand je fonçais dans la street à 25 à l'heure, enfin 24 et demi, sur ma piste cyclable, sur ma trottinette pour rejoindre une contrôleuse de gestion sans poils dans les oreilles. Oh, c'était le rêve. Je savais que je devais cette aura à Bernard Madoff. Adieu Bernard et merci pour tout.
Merci Nicolas Barré. Allez, un petit mot.
Il n'y a pas une prise parce que ma trottinette électrique est toute déchargée.
Si, il y a une prise, on va en trouver une. Un petit mot maintenant des concerts-tests annoncés il y a plus de 2 mois à Paris et à Marseille. Ils sont au point mort et la profession est folle de rage, bien sûr. Bonjour Roselyne Bachelot.
Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour à votre équipe. Content de vous revoir. Bon,
moi
alors,
aussi.
On ne me laisse même pas faire une convalescence tranquille, d'après ce que je comprends. Il gueule encore l'être intermittent. C'est fou ce que ça gueule, un intermittent. Remarquez, ils portent bien leur nom, les intermittents. Un coup, ils gueulent. Un coup, ils sont pas contents. Voilà.
Non, mais là, vous abusez quand même. Des concerts-tests doivent être organisés pour connaître le taux de contamination dans une salle de concert et pour pouvoir décider du protocole sanitaire. Et puis rien, ça fait 2 mois qu'on a annoncé, puis il se passe rien.
Oh, ben comment ça, rien ? Ben, elle est bien bonne, celle-là. Non, mais vous plaisantez ! Je suis allé dans une salle de concert, je suis allé à l'Olympia pour assister au César, souvenez-vous ! Et j'ai failli crever du Covid. Non, mais qu'est-ce que vous voulez de plus comme test ? J'ai fait crash test humaine, oui. Il est fait, votre concert test. C'est de la merde, les salles de concert. Dalida qui chantait « Moi, je veux mourir sur scène », bien, viens chanter à l'Olympia en 2021, tu seras exaucée, ma chère Dalida.
Merci, Roselyne Bachelot. Merci. Allez, à Canal Plus, l'affaire Pierre Ménès continue à faire des remous. La direction a convoqué plusieurs personnes, prélude à des licenciements. Bonjour Pierre Ménès.
Ouais, salut Julie. Ben voilà, c'est voilà du sexisme. On se rend compte que j'étais pas le seul à en faire. Je sais que c'était pas bien maintenant que je lis les trucs là. Si je lis Mathieu, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, et comment bizarre. Il s'appelle l'autre bonhomme là, Alice Coffin.
Oh, et bien arrêtez, attendez, Alice Coffin, c'est une femme. Oh là là.
Elle joue pas sur les mots. Enfin, elle a quand même.
Ça c'est magnifique.
Enfin, vous avez fini les livres.
Elle a quand même une tronche à livrer des colis avec un smirmorque, excuse-moi.
Pardon.
Là, oui, je vois dans vos regards que c'est pas très féministe que j'ai dit là. Ouais, bon, désolé. Ouais, mais j'essaye d'apprendre, mais putain, c'est méga dur. J'en parlais à Cabrol, c'est pas simple. Je me reprends. Je suis le produit du. Du patriarcat hétéronormatif qui oppresse nos sœurs sexualisées, fétichisées.
Il parle la langue déjà.
Ouais. Enfin, admet que c'est quand même du tordu à retenir. Bon. En tout cas, j'étais pas le seul à déraper. Voilà, c'est bien Canal Plus fasse le ménage chez les machos.
Canal Plus a convoqué les gens qui avaient soutenu Sébastien Thoen, qui était viré pour un sketch qui parodiait CNews, ainsi que des personnes qui avaient participé au documentaire qui vous avait mis en cause.
Ah bon ?
Ben oui, c'est ça.
À Canal, ils veulent virer les gentils ? Ah putain, mais. Ben même moi, là, ça me scie la teub.
Oh là là, s'il vous plaît,
je suis choqué, là. Oh. Pourtant, pour me choquer, il faut y aller, hein, ah tu bah, le connais. Hein. Même chanter la Zoubida à Barbès déguisée en chimpanzé, ça ne me choquerait pas. Tu vois.
Écoutez, ils doivent vous adorer à Canal. En même temps, votre absence... oui, à Barbès aussi.
Ah bah, tu viendras avec moi, Mathieu. je t'apprends les paroles. Hein,
vous savez que en votre absence, le Canal Football Club a fait moins bonnes audiences que d'habitude. Jusqu'à 200 000 téléspectateurs en moins.
Ah bah ouais, mais c'est
dingue.
Ça ne m'étonne pas, Juju. Hein, ah ben, un Canal Football Club sans moi, les gens se barrent. Hein, ça, avec moi, il y avait du spectacle, excuse-moi, il y avait du roulage de pelle, des petits culs de journalistes, tu vois, des débats sur les Arabes. Tu crois que tu retiens du téléspectateur avec des extraits de Dijon-Strasbourg et de Nîmes-Lorient? Non, bah non. T'es naïve, hein, ma petite poule. Hein, on me trouvait médiocre, mais ma médiocrité, elle permettait de cacher celle de la Ligue 1. Excuse-moi.
Je ne suis pas votre petite poule, moi.
Quelle chute. Alors, Nicolas Canteloup, bravo, et bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cabrivia, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Julie, bravo.
Oui.
Aussi.
Ok, pas de raison. Merci,
c'était
Mathieu.
La revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. Philippe Vandel est là. Culture Média va démarrer, c'est 9h-11h sur Europe 1, la référence de la culture et des médias.
Merci, et merci pour les audiences qui sont en hausse. Merci à toutes et tous qui nous écoutaient. Notre info média du jour va s'intéresser à l'un des hebdos les plus lus en France, et M, le magazine du Monde, magnifique magazine, qui publie son 500e numéro. Pourquoi je dis magnifique? Parce que là, il y aura un numéro très spécial qui va mettre à l'honneur les 499 unes précédentes. Et vous allez l'entendre, la 500e une est très surprenante. On en parle avec la directrice adjointe des rédactions du Monde, c'est Marie-Pierre Lannelong. Au sommaire également, une figure du PAF, Patrick Sébastien, remercié par le service public. Il revient à la télé samedi sur C8 dans une nouvelle émission, un reboutiquage de ses présentes émissions. Ça s'appelle Samedi Sébastien, il va tout nous raconter. Puis musique avec le duo Madame Monsieur, c'est eux qui avaient représenté la France à l'Eurovision 2018 avec la chanson Merci. Ils reviennent avec un nouveau single et leur album Tandem.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h, c'est sur Europe 1. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Pierre de Villeneuve vous réveille samedi, dimanche. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.